d'où il ne put ni croire tout à fait en son rêve, ni y renoncer tout à fait. Il se mit à dire en substance que les hommes étant ce qu'ils sont, c'est-à-dire imparfaits, c'est-à-dire très imparfaits, c'est-à-dire très très imparfaits, et la société qu'ils forment, soumise au jeu mouvant de leurs désirs et de leurs fantasmes, ce qu'ils défendaient désormais, était l'idée d'une utopie déniaisée. Une utopie rouge comme le sang et noire comme l'âme. Une utopie avertie, clairvoyante, nettoyée de ses fumigènes illusions, autrement dit impossible, autrement dit inatteignable, mais à laquelle il fallait tendre sans trêve et jusqu'au plus haut niveau accessible d'émancipation. Voici pour le discours. Mais une faille s'était ouverte en lui que ce discours ne pouvait colmater. Et le chagrin qu'il avait éprouvé dans le café des Ramblas face à la haine des tueurs de son camp, ce chagrin qu'il avait réussi à tenir quelque temps en respect, le submergea. Et une forme d'amertume commença de poindre. « Tout ça ne pouvait que mal finir, disait-il. C'était couru. Je me suis dépensé en pure perte, disait-il. Ça m'apprendra. Les espérances à la trappe, disait-il. Cette saloperie. » Ce rêveur définitif, qui avait perdu définitivement son rêve, s'abîma dans un deuil, qui était le deuil de sa révolte, le deuil de son enfance et le deuil de son innocence, et accusa Diego d'en être seul coupable. Diego devint son idée fixe, son ennemi idéal. Après Los Hechos de Mayo, il lui devint haïssable, encore plus impardonnable qu'avant. Il l'accabla de son mépris. Il répéta 100 fois par jour que ce chien avait trahi la révolution, car il parlait de la révolution comme il aurait parlé d'une amante, ce qu'elle était pour lui, je crois. Que ce chien l'avait avili, que ce chien l'avait dévoyé, que ce chien l'avait suicidé, que ce chien l'avait conchié sous le couvert de la servir, car il n'avait pas compris qu'avant de se réclamer d'elle, il fallait commencer par la faire en soi-même. Il le démontrait à sa mère, qui soupirait. Ça le reprend dans une résignation consternée. Puis il le démontrait à la malouka, l'épicière, qu'il écoutait avec la patience des adultes écoutant des histoires d'enfants. Puis il le démontrait pour la 100e fois à Juan, qui pour l'en distraire, l'entraînait au café de Bendición. Un vermouth, commandait José. Deux, disait Juan. Dans le café, les conversations portaient sur les quantités d'olives que les oliviers donneraient cette année. « Il n'y a que ça qui les intéresse, » disait José. « Les olives et le cul, » disait Juan. « Et la Sainte Vierge, » disait José. « Ça va ensemble, » disait Juan. » Après quoi, les deux tombaient dans un silence morne. « Et Rosita ?» demandait soudainement José. « Quoi, Rosita ?» disait Juan. « Toujours à la cantine, » disait José. « Non, » disait Juan. « Elle s'éclate à Paris. » Et il partait d'un rire sombre. Puis les deux retombaient dans le silence. Regarde-moi ces cons, s'exclamait José tout à coup. C'était son moment métaphysique. Les hommes, disait-il, le front barré de deux sillons, les hommes ont de plus en plus tendance à s'abuser et se mentir. C'est un progrès, mais à rebours. Ils se laissent gruger avec délectation par le premier qui parle fort et qui leur dit suivez le guide. Ils sont peureux, rampants et prompts à s'asservir. Et leur servile peur leur tient lieu de morale. Ils se consolent de la mort de leur épouse plus vite que de la perte d'un bien. Je l'ai maintes fois constaté. C'est peu de dire qu'ils sont lâches, et que ce qu'ils baptisent mala suerte n'est rien d'autre que le nom qu'ils donnent à leur lâcheté. Faible, donc vindicatif, ils... Et la litanie des noirceurs et bassesses humaines qu'il inventoriait sombrement pouvait ainsi se prolonger durant des heures face à un Juan tout aussi sombre qui commandait « Un autre vermouth, por favor !» car il lui fallait, d'urgence, un remontant. Une nouvelle phase s'amorça dans la vie de José lorsqu'il en vint à s'auto-accuser avec une violence telle qu'elle effraya sa propre mère. Il se maudit, se fustigea, se détesta. Il vomit ce qu'il avait adoré. Il divorça d'avec lui-même. Par une criminelle bêtise, disait-il, il avait cru entrer au paradis, mais c'était un paradis pour caniche. Comment avait-il pu être aussi ridiculement puéril? Quant à la pureté, l'enfance infinie, le lait et le miel,